Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si à Cordiac, voir fr.renew.auto. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
RMC, le week-end des experts, 6h-7h, votre jardin, François Sorel, Patrick Mulan.
Voilà, 6h15 et c'est parti, nous y sommes. Bonjour à vous toutes et à vous tous, c'est le week-end des experts et c'est le jardin pour débuter. Tout à l'heure, entre 7 et 8, la maison avec Christian PC, faire construire sa maison ou acheter un appartement neuf. Voilà, si vous rêvez peut-être de vous offrir votre nouvelle propriété, eh bien on en parlera tout à l'heure. Comment rester en bonne santé tout en se faisant plaisir, ce sera avec Christian Ekia. Et à quoi servent les montres connectées, ce sera notre nouveau rendez-vous vie numérique tout à l'heure avec Raphaël Graboulier entre 9h et 10h. Gadget ou vraie révolution technologique,
c'est
la montre connectée?
C'est une très bonne question.
Eh bien voilà, on se la posera tout à l'heure, on vous la posera à vous d'ailleurs si vous avez d'ores et déjà une montre connectée et que vous voulez réagir, allez-y, hein, via Direct Studio, on attend vos messages, peut-être que votre témoignage passera tout à l'heure. Bonjour Patrick Mulan.
Bonjour François Sorel, bonjour à tous et très bienvenue au jardin qui frissonne un peu ce matin, oui, mais qui va reprendre des couleurs dans l'après-midi et je pense aussi dans la semaine.
9 degrés en banlieue parisienne et 12 degrés à Paris. Voilà, toujours ces 3 degrés d'écart entre les deux. Et bon, vous avez vu, hein, Stéphane Jobert nous l'a annoncé tout à l'heure et nous le réannoncera. Il va faire un beau week-end, donc un petit week-end sympathique pour jardiner, pourquoi pas. On va en parler. Récolter et conserver les fruits, c'est notre gros sujet de ce samedi. On va retrouver la météo du jardinier. Votre coup de cœur aussi, on parlera de la fête des plants de Saint-Jean de Beauregard.
Oui, et on parlera aussi d'un logiciel qui a pratiquement répertorié toutes les plantes de France.
Oula! Eh bien, dites-moi. Accessible pour le grand public aussi?
Oui, on peut l'acheter. D'accord. Et puis après, on a la flore de France. Ouais, c'est extraordinaire. Vous verrez ça. C'est un monsieur qui a fait ça tout seul. En plus, il est handicapé. C'est un truc de fou.
Eh bien voilà, ça sera tout à l'heure. Et vos questions jardin dès maintenant, hein, les amis, puisque vous le savez, Patrick Mulan est avant tout pour ça. Et pour nos quatre experts du samedi et Jean-Luc Moreau le dimanche pour l'automobile, le plus important, ce sont vos questions, vos réactions. C'est vous qui faites ces rendez-vous. 32-16, donc le standard RMC. Amina est d'ores et déjà là pour recevoir vos appels. Vous avez le mail jardin@rmc.fr ou via Direct Studio et l'appli RMC. Vous pouvez nous laisser un message. On va retrouver vos questions dans un instant, mais on va débuter par votre conseil de l'expert de ce samedi matin. Est-ce le bon moment pour mettre de l'engrais, Patrick?
Alors ça, c'est une excellente question sur laquelle la réponse peut être à la fois, on va dire, très simple ou très complexe. L'engrais, c'est quoi, d'abord? L'engrais, c'est de la nourriture pour plantes. Donc, on met pas les... Quand on dit mettre quelqu'un à l'engrais, c'est vrai que généralement, on sous-entend un peu le dopage forcé, etc. Bon, alors c'est vrai que dans certains types de cultures, et notamment des cultures hors sol, où les plantes sont un peu sous perfusion, avec en permanence une solution nutritive, on peut dire qu'elles sont presque suralimentées. Mais dans nos jardins, et notamment au potager, l'engrais est important parce qu'en fait, on a quand même un export permanent de la plante qui se nourrit de ce qu'elle trouve dans le sol, mais qui ne le restitue pas. Donc, quand on a des cultures rapides, comme au potager, par exemple, on va dire des salades, ça demande quoi 3 mois maximum, eh bien, elles ont pompé un peu d'éléments nutritifs et on va en rapporter. Quand on a aussi un sol qui n'est pas d'excellente qualité, eh bien apporter de l'engrais va permettre aux plantes de trouver quand même de quoi se nourrir. D'accord. Dans un sol qui est pas très très bien. Et puis évidemment dans les pots, puisque vous avez, on va dire, un volume de terre extrêmement réduit, eh bien il faut apporter de l'engrais puisque très très rapidement les plantes vont pomper tout ce qui se trouve à l'intérieur du pot. Donc ça c'est posé pour savoir ce qu'est l'engrais. Maintenant, c'est est-ce que on va mettre de l'engrais en cette saison qui est quand même la fin de saison au niveau du cycle végétatif, ou est-ce que on en met qu'au printemps? Eh bien, ça dépend. Ça dépend des cultures, ça dépend de la pérennité justement de la culture. Par exemple, il est bien évident qu'en ce moment, on va plus nourrir les tomates, les salades, les poireaux, enfin tout ce qui est du potager, ça a strictement plus aucun intérêt, puisque de toute façon, soit les plantes vont être en dormance, soit elles vont être récoltées. Pour tout ce qui est pérenne, en revanche, bon, notamment le gazon. Le gazon, il y a des engrais spéciaux automne qui sont tout à fait intéressants parce qu'ils permettent de constituer une sorte de réserve nutritive pour les plantes pendant l'hiver et donc de leur permettre de redémarrer correctement au printemps. Parce qu'il faut penser quand même que sur les plantes pérennes, les racines existent encore et de temps en temps, elles ont quand même besoin de pomper quelques trucs. Donc en ce moment, par exemple, on peut aussi apporter de l'engrais sur les arbustes d'ornement, sur les rosiers et... On parlera de la récolte tout à l'heure dans la deuxième partie. Mmh. Après-récolte sur les arbres fruitiers, c'est tout à fait intéressant. En revanche, sur les plantes que l'on va planter, c'est le moment, par exemple, de mettre en terre les bulbes à fleurs. Là, on met pas d'engrais. On mettra de l'engrais une fois que les plantes auront fleuri, mmh, de manière à ce qu'elles puissent reconstituer leurs bulbes. Sur les plantes d'appartement, qui, elles, rentrent en dormance, ben là, on va pas non plus mettre d'engrais. On va arrêter. Parce que, en fait, il faut imposer la dormance à la plante, alors que si on continue à la nourrir,
ça va la maintenir éveillée.
Voilà, ça va la maintenir éveillée. En revanche, il y a les agrumes qui, eux, ne dorment pas. C'est vraiment particulier, les agrumes. Ce sont des plantes qui sont toujours actives, en végétation. D'accord. D'ailleurs, on voit bien, elles produisent généralement leurs fruits. La maturité est hivernale. Après, même oui, parfois, en même temps que les fruits, vous avez les fleurs. Mm-hmm. Donc, la plante tourne tout le temps. Et ben, à ce moment-là, on la nourrit tout le temps. Donc, voilà un petit peu ce qu'il faut savoir, de manière à prendre un petit peu la température. Et dernière chose, puisqu'on va arriver à la période de plantation d'automne, ça va commencer vers le 15 octobre, eh bien là, on peut apporter, lorsqu'on fait le trou de plantation, de l'engrais, ce qu'on appelle de fond, c'est-à-dire des engrais style corne, par exemple, broyée, qui sont, ou poudre d'os, qui sont des engrais qui se libèrent très lentement dans le sol. D'accord. Et qui là aussi constitue une sorte de réserve nutritive que la plante va pouvoir avoir à sa disposition lorsqu'elle va commencer à se développer et surtout atteindre un peu le fond du trou. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Et alors, dernier conseil important, ne surdosez jamais. Respectez bien les doses d'emploi qui sont mentionnées sur les
plantes. La plante peut être cramée, enfin, ça peut la...
Ah ben, si vous en mettez trop, oui, exactement. Ben, vous savez, c'est comme une indigestion.
Oui, c'est ça. Exactement. L'indigestion de la plante, c'est trop d'engrais. Le 32-16 pour toutes vos questions et nous accueillons Dominique qui nous attend au 32-16. Bonjour Dominique.
Oui, bonjour messieurs.
Bonjour Dominique, bienvenue.
On vous écoute.
Je vous ai appelé au sujet de citronniers.
Oui.
J'ai 3 citronniers verts.
Citron vert, d'accord.
Des citrons verts, c'est ça. Et ils sont à Handaï, plein sud. Plein sud, plein sud. Ces trois plantes ont été mises en terre il y a ça 2 ans. Jamais je n'ai une fleur. Ça a été fait par la personne qui a fait le jardin, hein, qui a été rénové, qui a été remis en place. Et j'avais acheté séparément un citronnier jaune.
Oui.
Qui, lui, quand je l'ai planté, était en fleurs. Pareil, il est dans les mêmes conditions, plein sud. Et ses fleurs, ben, elles ont tombé. J'ai jamais eu de citron et depuis, jamais de fleurs.
Bah, c'est certainement que la plante n'est pas exposée idéalement. Alors, vous dites plein
sud. Vous l'arrosez comment aussi, Dominique ?
Alors, oui, il faut que j'ai oublié de vous dire.
Et voilà.
L'ensemble du jardin est arrosé avec un goutte à goutte qui se met en marche une fois par jour.
Oui, mais ça, c'est très bien.
Ça suffit ?
Bah, ça suffit, je ne sais pas combien est réglé goutte à goutte.
Le reste des plantes dans le jardin se porte bien. Tout ça, c'est très beau. C'est des fleurs, il y a des machins, c'est très beau.
Mais les citronniers se portent bien ?
Ah, bah, ils poussent, oui. Ah, bah, oui, ils poussent en bois et en feuilles.
Oui, mais alors, voilà, on est vraiment dans l'archétype de ce que j'explique très souvent, c'est que la fructification et donc la floraison est inversement proportionnelle à la vigueur. C'est-à-dire que plus vous avez une plante qui se développe en bois et en feuilles, et moins elle a tendance à fleurir. Donc vous avez certainement, au moment où le jardin a été fait un apport alors de terre riche en azote ou de fumier, de compost, etc., qui fait que la présence de cet azote en grande quantité favorise le développement des feuilles et des tiges au détriment de la floraison. Donc ce qu'il faut peut-être commencer par faire, c'est aussi faire une petite taille de manière à ce que les pousses se ramifient, ça aide un peu. Et puis surtout, on va dire, contrebalancer sans doute la forte présence en azote par un engrais qui, lui, serait très très faiblement dosé en azote, voire sans azote, alors ça c'est difficile à trouver, mais avec de la potasse et de l'acide phosphorique, qui sont les éléments quand même moteurs de la floraison et de la fructification. Donc là, dans votre cas, je pense que c'est ça. Sinon, j'avais aussi, comme autre solution, c'est bon, vous dites plein sud, mais attention quand même, à Hendaye, vous pouvez être aussi soumis à des forts vents, et le vent est un inhibiteur majeur de la floraison. Quand une plante est exposée en plein vent, elle a beaucoup, beaucoup de mal à fleurir. Mais dans ces cas-là, elle serait pas aussi vigoureuse que ce que vous décrivez, parce que le vent réduit aussi simplement la croissance et le développement foliacé. Donc, dans notre cas, c'est un problème purement de sol. Donc, essayez d'apporter, par exemple, des cendres de bois, essayez d'apporter des phosphates naturels, des potasses d'Alsace, etc., qui sont des éléments qui vont contrebalancer cette dynamique d'azote.
Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Dominique. Et si, tout comme Dominique, vous voulez joindre Patrick, le 3216, jardin@rmc.fr ou via Direct Studio.
Voilà. Alors, cette réponse vaut pour toutes les plantes qui sont dans le même cas. Hein, que ce soit des citronniers ou autre chose, c'est toujours la même chose.
Patrick, on va revenir dans un instant. On va poursuivre avec vos questions. Et on va s'intéresser à notre dossier de ce samedi matin, récolter et conserver les fruits. Voilà, faut-il récolter les fruits mûrs ou presque mûrs? Comment les conserver aussi? Et puis on vous offrira un joli cadeau connecté qui va aller dans votre jardin. Mais auparavant, à 6h26, c'est l'heure de la météo. Une météo qui donne envie de jardiner, hein, Stéphane Jobert.
Oui, exactement. Et pour Dominique, tenez, qui était avec nous à Hendaye, il fera beau, du soleil et jusqu'à 27 degrés aujourd'hui. C'est quand même parfait.
Son citronnier va être content, là.
Premier week-end d'automne avec des conditions dignes d'un début de printemps, quand même, hein. Des soleils, du soleil aujourd'hui, donc, sur le pays. Quelques nuages et de la grisaille, tout de même, ce matin, sur le Val de Loire, le Val de Saône, dans les Bouches-du-Rhône et en Provence. Mais rapidement, le beau temps s'installe quasiment partout. Allez, les nuages résistent peut-être encore en Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur et un peu vers les frontières du Nord, mais les conditions restent très très agréables. Les températures aussi ce matin, avec une moyenne de 10 degrés, on ira même jusqu'à 15 degrés dans le Sud-Est. Et dans l'après-midi, entre 19 et 25 degrés sur une large moitié Nord. Il fera par exemple 20 degrés à Reims et Lille, 21 à Paris, 22 à Caen et Orléans, 25 degrés à Poitiers, jusqu'à 27 degrés plus au Sud. Comptez 26 à Carcassonne et Nîmes, et 27 degrés donc prévus à Toulouse, Biarritz et Bordeaux.
Et on revient dans un instant. 3216 pour vos questions jardin, jardin@rmc.fr par mail ou via Direct Studio, toutes vos questions à Patrick Mulan, notre jardinier qui est là chaque samedi. À tout de suite.
RMC, 6h-7h, votre jardin, François Sorel, Patrick Mulan.
Voilà, 6h30 tout pile, nous sommes de retour. Le week-end des experts et le jardin. Avant de vous donner un maximum de conseils concernant la récolte et la conservation des fruits avec Patrick, eh bien, cadeau. Patrick, on offre l'outil préféré du jardinier connecté. On vous offre, eh bien, un capteur Bluetooth. Il s'agit du Flower Power du constructeur Parrot, qui est un constructeur de produits high-tech français, et qui a sorti un petit appareil, une petite tige. Ça ressemble à un tout petit arbre, en fait.
Ou branches.
Voilà, deux branches. Que vous plongez dans la terre. Hein, il y a une petite pile à l'intérieur. Et ça va se connecter avec votre smartphone via une appli que vous allez pouvoir télécharger. Et Patrick, ça va donner les constantes vitales, en quelque sorte, de la plante, voilà, en temps réel, via le smartphone.
Voilà, ça marche en Bluetooth. Hein, en fait, si vous êtes à Singapour et que votre plante est à Paris, ça fonctionne pas. Hein.
Il faut être à côté.
Faut revenir de temps en temps à côté de la plante pour recharger le truc. Mais après, elle vous envoie les informations pour vous dire qu'elle a suffisamment de lumière, qu'elle est bien arrosée ou pas assez ou trop, qu'elle manque d'engrais. Donc voilà, ça c'est les éléments sympas. Et surtout, vous personnalisez votre plante par rapport à la base de données. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites une photo de votre plante et puis vous allez rechercher dans la base de données quel est son nom, en fait. Ça, le problème, c'est que si vous connaissez pas le nom de votre plante, c'est un peu embêtant. Mais si vous le connaissez, philodendron, pof, vous allez faire connecter la base de données philodendron avec votre plante, et comme ça, vous saurez en permanence comment il faut l'entretenir et si elle a besoin particulier. Voilà. C'est assez simple, très techno. Et puis après, vous avez de temps en temps des petits graphiques se forment.
C'est ça qui
vous disent, voilà, la plante est vivante.
Très bien. Et alors, pour remporter ce Flower Power, c'est très simple. On joue exclusivement par SMS. Et vous nous envoyez le mot jardin par SMS au 732-16. Jardin sur votre mobile au 732-16. Et vous participerez au tirage au sort pour ce petit capteur connecté Bluetooth, donc, pour votre jardin. Patrick, On enchaîne avec notre dossier de ce samedi matin, récolter et conserver les fruits. Et puis, si vous voulez réagir justement sur la récolte ou la conservation des fruits, dès maintenant, appelez-nous 3216 jardin@rmc.fr ou via Direct Studio, c'est le plus simple, hein, via l'appli RMC si vous l'avez sur iOS ou Android, vous nous laissez un message, il arrive en temps réel dans le studio.
Oui, alors la récolte des fruits, ça peut paraître anodin, ça ne l'est pas du tout, surtout lorsqu'on est sur les fruits qui se récoltent en ce moment, à savoir principalement les pommes et les poires. On peut aussi parler des raisins, puisque en fait, on est en période de vendange. Alors, faut pas confondre la vendange qui concerne les raisins destiné à faire du vin avec simplement la récolte des raisins qui est ceux des raisins de table. Alors on a encore en ce moment les dernières framboises, quelques mûres, les fraises, mais ça c'est très facile à récolter parce que il suffit d'en goûter une pour savoir si elle est à maturité, puis en général la coloration du fruit suffit pour vous indiquer sa période de maturité. En revanche, sur les pommes et les poires, on a une vraie différence parce qu'il y a deux stades. Vous avez ce qu'on appelle la maturité physiologique, c'est-à-dire le moment où le fruit va pouvoir être détaché facilement de l'arbre, là on peut le récolter, et la maturité gustative, oui, qui sur certaines variétés, alors sur les pommes d'été, sur les poires d'été, par exemple comme la William, il n'y a pas de problème. Dès que la poire commence à jaunir un peu, et elle se récolte et elle se consomme vraiment dans les jours qui suivent. Sur des poires d'hiver, par exemple, une des plus tardives comme la Pascrassane, cette grosse pomme ventrue qui fructifie vraiment en ce moment, mais qui va être consommable en hiver, eh bien là, on ne sait pas trop comment faire. Alors, la récolte, je vais quand même vous donner déjà, puisque je parlais du raisin, un petit truc, parce qu'en fait, on a tendance à récolter le raisin. Bon, on utilise un sécateur, mais on ne coupe pas que le pédoncule, la queue. Il faut prendre un morceau de sarment. Alors, vous pouvez même le prendre long.
Ah oui, d'accord.
Oui, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le sarment, de toute façon, ne redonnera pas de fruits. Donc, au moment de la taille, vous allez l'éliminer. Donc, vous pouvez en prendre un grand morceau parce que ça va vous permettre, en fait, de tremper ce morceau de sarment dans une bouteille d'eau,
d'accord,
pour conserver bien plus longtemps votre grappe de raisin. Parce que là aussi, le raisin, lui, c'est facile de voir la maturité. Vous piquez un grain sur la grappe et s'il est avec une saveur déjà suffisamment sucrée, ben là, vous pouvez le récolter.
Et on peut le garder comme ça pendant 3 semaines.
On va le garder pratiquement dans la bouteille, oui, jusqu'à 3 semaines.
Génial,
alors,
ça.
Bien sûr, dans un local sombre, relativement frais, comme une cave, etc., ou un garage, mais c'est déjà quelque chose assez intéressant. Alors, le raisin, si vous le coupez simplement la grappe comme ça, vous allez garder quoi? Une petite semaine? Mais alors, ce que vous pouvez faire aussi, puisqu'on part là maintenant vers une semaine relativement belle, alors relativement s'il y a des zones quand même où il pleura, mais si c'est pas s'il n'y a pas d'humidité, vous pouvez le laisser encore mûrir sur la vigne, parce que avec la chaleur...
Plus il est mûr, mieux c'est.
Il y a surtout chargé de sucre. Vous savez, les vendanges tardives,
oui,
qui sont
sûr.
Donc, alors là, c'est inconsommable parce qu'en fait, il y a aussi la pourriture noble qui se met dessus. Mais ça charge énormément en sucre.
Et
donc, à ce moment-là, le goût, potentiellement, peut être meilleur. Mais quand il n'y a pas de moisissure, bien évidemment.
Enfin, chez moi, les raisins, ça fait un moment qu'ils n'y sont plus. Les oiseaux se sont déjà régalés depuis très, très, très longtemps.
Ah, ça arrive.
dingue, hein. Il ne reste plus un grain de raisin.
Dans Paris, ils n'ont pas forcément énormément à manger.
Oui, ils ont trouvé
des choses fraîches comme
ils
ça.
Ils ont trouvé le primeur, donc ils sont contents.
Sûr.
Patrick, comment savoir si une pomme ou une poire sont mûres, par exemple? Tiens.
Alors, donc, ce que l'on va faire, on va prendre le fruit, et alors, il y a deux techniques, selon que c'est une poire ou une pomme. Quand c'est une poire, on pose le doigt sur le pédoncule, sur la queue de la poire, et on prend délicatement avec la main, et on va soulever, faire un mouvement vers le haut, et si ça se détache, eh ben, vous savez que vos poires sont à bonne période de récolte. Sur la pomme, on fait différemment. On prend la pomme par le dessous, en la mettant au creux de la main, et on amorce un petit mouvement de rotation,
tout doux.
Et si la pomme aussi se détache, c'est qu'elle est au moment
de la maturité. Et si elle se détache pas, on la laisse tranquille encore un petit peu.
Ah oui, bien sûr, si elle veut pas, faut pas tirer dessus comme un malade.
On a Eddy qui nous attend au 32-16. Bonjour Eddy.
Oui, bonjour.
Bonjour Eddy, bienvenue.
Comment va notre boulanger pâtissier préféré?
Bon, bien, hein, comme d'habitude. Hein.
Ça va?
Toujours d'attaque, voilà, les petites brioches sont au four, ça va plutôt sentir bon.
Les brioches sont au four.
coule et bientôt le café.
Ah,
et
ça c'est bien. Voilà. Tout est prêt là, à 7h20.
Ça va se terminer. C'est pour ça que ça va être le petit break.
Bon, bah, c'est très bien, Eddy. Merci en tout cas de nous être fidèles.
Comme d'habitude, pour prendre de bons conseils auprès de vous.
Ouais.
Voilà, moi j'ai mes poires qui sont belles comme toutes, mais qui ont l'air bien vertes encore. Et je me posais la question de savoir s'il fallait que j'attende, savoir si elles allaient continuer à mûrir, étant donné que le temps se rafraîchit quand même fortement et les journées ont bien raccourci, ou si c'était trop tard pour elles cette année.
Non. Alors surtout, il n'est pas trop tard. Vous voyez, j'ai déjà expliqué partiellement ce qu'il fallait faire. Il y a beaucoup de poires qui sont vertes de couleur de l'épiderme. Mm-hmm. Donc la couleur, c'est pour ça que je disais c'est un peu compliqué.
Oui, il faut pas se laisser
Contrairement aux cerises ou aux framboises ou aux fraises qui elles avec leur couleur vous indiquent qu'elles sont mûres, les poires c'est pas du tout le cas. Donc il faut vraiment faire ce que je viens d'expliquer, donc le petit coup du doigt, on relève doucement la poire, si elle se détache, c'est bon. En revanche, c'est pas sûr du tout qu'elle soit consommable. On est encore dans une période un tout petit peu précoce pour tout ce qui est poires d'hiver. Vous avez à voir les poires qui se récoltent pendant le mois d'octobre, jusqu'à fin octobre pour certaines, comme la curée, la doyennée du comice, la comtesse de Paris, la passe-crassane. Donc ça, ce sont des poires plutôt tardives. Alors que maintenant, là, en ce moment, on va récolter plutôt. Alors la beurrée hardie, elle est assez verte hein, comme couleur. Elle se conserve très bien jusqu'à fin octobre. La conférence, alors celle-là, on la connaît. Elle est toute allongée. On la voit beaucoup dans le commerce. Elle est un petit peu tordue souvent. Bon, elle pareil, mais elle se conserve un peu plus longtemps, jusqu'à fin novembre. Et puis, en ce moment, on a aussi la fameuse Louise Bonne d'Avranches. Alors elle peut avoir un petit côté un petit peu cuivré sur la face qui est exposée au soleil. Et elle va se conserver aussi jusqu'à mi-octobre environ. Donc ça, ces trois poires-là, on les récolte généralement en ce moment. Mais en fonction des régions, ça peut aussi dépendre. Et puis c'est vrai que vous avez raison, il a fait relativement froid sur le début du mois, donc on peut encore attendre un petit peu. Voilà.
Où est-ce qu'on peut les conserver, ces pommes et ces poires? Et est-ce qu'on peut les conserver longtemps, tiens?
Alors, ça dépend ce que l'on a comme installation possible. L'idéal, c'est d'avoir une pièce qu'on appelait dans le temps un fruitier. C'est une pièce qui est bien sombre, qui reste relativement fraîche.
Comme une cave, en quelque sorte.
Alors, le problème de la cave, c'est que généralement, il y a trop d'humidité. L'humidité, l'hygrométrie.
Et voilà, c'est ça.
Idéal, c'est 60%. Et pour que les fruits ne pourrissent pas en conservation, il faut surtout pas que l'humidité dépasse les 75. Donc on est entre 60, 70, ça serait pas mal. Donc ça, mettez un hygromètre dans la cave, si vous constatez que vous êtes à 80%, c'est pas la peine, parce que très rapidement, la pourriture va se mettre. Mais vous pouvez aussi, je dirais dans un garage par exemple, alors bien sûr faut pas mettre la voiture
il faut pas qu'il y ait du diesel autour
ou dans un cellier ou par exemple dans une pièce qui doit être sombre, ça c'est important, mettre vos fruits en conservation.
On les pose comment? On les pose
D'abord au niveau de la récolte, il faut récolter un par un, ces fruits, les placer dans un panier sans qu'ils se heurtent. On secoue pas les pommiers et les poiriers comme des pruniers pour faire tomber les fruits. Non, là, un par un, on les récolte, on les met dans le panier. Il faut pas les heurter parce que la moindre blessure réduit énormément la conservation. Après, on trie. Est-ce qu'ils sont tachés? Est-ce qu'ils n'ont pas eu un trou avec un carpocaps, par exemple, qui a fait un petit verre à l'intérieur? Donc, tous ceux qui sont parfaitement sains, ceux-là, on les pose sur des clayettes. C'est-à-dire donc des systèmes ajourés. Alors si vous n'avez pas de clayette, vous pouvez très bien prendre un cageot. Les primeurs, les marchands de légumes aujourd'hui, ils se débarrassent en permanence de leur cageot en bois, et ça c'est très très bien pour conserver les fruits. Donc dans ces cas-là, ce que vous faites, c'est que vous mettez un lit, un papier journal, et puis vous allez poser vos fruits sur cette clayette avec le papier journal. Les fruits ne doivent pas se toucher.
Ça, c'est important.
Ça, c'est très important.
Est-ce que le frigo peut être une bonne alternative si on n'a pas la chance d'avoir un cellier?
Alors, pour nous, non, parce qu'en fait, on va dire que l'idéal, c'est la température entre 5 et 10 degrés pour conserver correctement un fruit. Les professionnels, eux, bien sûr, utilisent les frigos et ils les utilisent très très bien. Mais attention, sachez que des pommes, par exemple, comme Rainette Grise du Canada, Belle de Boscope, sont sujettes, pardon, à une brunissure interne. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, elles sont belles, mais si elles sont conservées trop au froid, hein, par exemple en dessous de 2 degrés, eh bien, elles vont être marron quand vous allez les couper en deux, donc c'est pas bien. Attention, Reine des Rainettes, elle est encore plus délicate, il lui faut pas moins de 4 degrés. Donc, l'idéal, hein, entre 5 et 10 degrés, pas au-dessus, parce que au-dessus, bah, vous accélérez la maturation et vous réduisez le temps de conservation.
Patrick, on revient dans un instant. On a encore plein de choses à se raconter. Et bien sûr, on va parler encore de récolte et de conservation de fruits. La météo du jardinier arrive aussi. On va voir un petit peu ce que nous a préparé Météo France pour les jours qui viennent et s'il y a des conséquences pour notre jardin. Et puis, bien entendu, vous voulez poser votre question à Patrick. On parle justement de récolte et de conservation de fruits ce matin. Profitez-en, 3216, jardin@rmc.fr par mail ou via l'appli RMC Direct Studio. On revient dans une minute, à tout de suite. Ah, Miu Miu, une petite question flash.
Ça me manquait.
Et je le sais bien, c'est pour ça qu'on vous en propose une. C'est la question de Valéria. Vous avez parlé de la pelouse la semaine dernière, mais ne peut-on pas remplacer le gazon par des plantes couvre-sol? Ce serait peut-être plus écologique, non? Et elle est de mots, Valéria.
Alors, l'histoire de l'écologie de la pelouse, c'est un grand mythe quand même, parce qu'effectivement, bon, les pelouses très très régulièrement tondues, travaillées pratiquement comme celles de golf, qui nécessitent beaucoup d'engrais, beaucoup d'eau, etc., on peut effectivement dire qu'elles ont un profil écologique un peu négatif. Mais une pelouse, en règle générale, c'est quand même un espace vert tout à fait utile et écologiquement favorable par rapport notamment à la climatisation naturelle que ça peut faire, par rapport aussi à l'évaporation qu'elle peut donner et donc humidifier un petit peu l'atmosphère, etc. Bon, les plantes couvre-sol ont une différence par rapport aux graminées à gazon, c'est que elles sont très très rares à supporter le piétinement. Donc si vous avez une petite pelouse, un petit carré, vous pouvez remplacer par certaines plantes couvre-sol. Dans le midi de la France, par exemple, il y a une plante qui s'appelle Dichondra repens, qu'on utilise couramment, qui a des toutes petites feuilles un petit peu rondes et qui a l'avantage, ces plantes couvre-sol, plus que l'avantage écologique, elles ont surtout l'avantage de pas se tondre, parce qu'elles poussent pratiquement pas en hauteur, donc on laisse un tapis homogène comme ça. Mais globalement, on peut pas dire que ce sont des remplaçants réels de la pelouse. En revanche, si vous voulez une pelouse plus écologique, associer du trèfle, et notamment il existe des micro-trèfles avec les graminées à gazon, parce que là, les plantes n'auront pas besoin d'engrais dans la mesure où le trèfle, lui, est capable de fixer l'azote atmosphérique sur ses racines et donc de fabriquer de l'aliment pour plantes. Donc ça, c'est quand même très très bien. Et puis, il ne jaunit pas, contrairement au gazon.
RMC, jusqu'à 7h, votre jardin, François Sorel, Patrick Miolan.
Voilà le week-end des experts, le jardin, avec Patrick Miolan. Tout à l'heure, le coup de cœur de Patrick, l'actu du jardin. La météo du jardinier qui arrive aussi dans un instant. On termine rapidement, Patrick, sur la conservation, la récolte et la conservation des fruits. On a évoqué les poires, assez peu les pommes finalement. Vous aviez une ou deux choses à nous dire là-dessus.
C'est-à-dire qu'au niveau des variétés qui se récoltent maintenant, alors celles-là, elles vont se garder environ jusqu'à 3 mois. Vous avez Chantecler, qu'on appelle aussi Belchar, Delbar Jubilé, Elstar, Grand Alexandre, Reine des Rainettes, Royal Gala, Spartan, Star Crimson, tout ça ce sont des pommes, donc on peut récolter en ce moment. On va attendre en revanche le courant octobre, vers le 15 octobre, entre le 15 et le 30, pour Belle de Boscope, Canada Gris, Cox Orange, Golden, Jonah Gold, Granny Smith, Melrose, Calville, etc. Donc ce sont des pommes de longue conservation, puisque certaines peuvent être conservées jusqu'au mois de janvier. Voilà ce qu'on pouvait dire à peu près sur la récolte et la conservation des fruits. Bien évidemment, vous pouvez faire des compotes, vous pouvez faire des confitures, vous pouvez faire de la congélation. Voilà, ça marche aussi, hein, mais ça dépend combien on a de fruits.
En tout cas, n'hésitez pas, hein, 3216 jardin@rmc.fr ou via Direct Studio pour toutes vos questions. On enchaîne avec la météo du jardinier à pratiquement 7h-10. Nous sommes le samedi 23 septembre 2017 avec un soleil qui se lève tout à l'heure. Ouh là, pas tout de suite, hein, 7h38. On se couche à 19h46, évidemment on dégringole. On perd 4 minutes de soleil et on fête les constants aujourd'hui.
Oui,
et les solennes aussi.
Et nous sommes en automne depuis...
Depuis quoi, hier?
Et voilà, c'est ça. Hier, exactement.
Et voilà, l'automne arrive et le soleil revient. En tout cas, dans le nord de la France.
Voilà. Alors c'est, on va dire aussi au niveau des dictons, vous avez à la Saint-Lin, récolte ton lin. Ça, c'est facile. Mmh. Et à la Sainte-Solène, on n'arrose plus la fleur de porcelaine. Ah oui, le Eoya, qu'on appelle les fleurs de porcelaine, sont des plantes grasses, donc des plantes succulentes. Ça, maintenant, on commence à réduire fortement l'arrosage de ce type de plantes. Alors, le temps. Demain, exactement comme aujourd'hui, hein, comme on vous l'a dit tout à l'heure, donc plutôt beau, des températures qui vont jusqu'à 27 degrés côté Agen, Avignon. Peut-être quelques petites gouttes sur la Bretagne, mais les conditions sont très favorables pour le jardinage. Alors, qu'est-ce que l'on fait maintenant? Ben, on va buter les artichauts au potager. Hein, dans les régions plutôt du nord de la France, dans les régions un peu plus douces, on peut attendre encore un petit peu. Alors, c'est le bon moment aussi pour nettoyer les arbres et les arbustes à feuillage caduc, c'est-à-dire éliminer toutes les parties mortes. Pourquoi? Parce que en ce moment, vous voyez encore avec le feuillage les branches qui sont desséchées. Ouais. Dans quelques semaines, ben, les feuilles seront tombées et ça sera très compliqué de savoir où sont les rameaux abîmés. On peut mettre, je disais tout à l'heure, donc un engrais spécial automne sur les pelouses, ça leur fait pas de mal. On peut aussi fertiliser les plantes de terre de bruyère, idem avec un engrais spécifique. À partir de lundi, on a des situations un peu bizarroïdes. Les vents sont un peu tourbillonnants, pas très forts. Donc plutôt un début de matinée assez humide de la Picardie à la Gironde avec un déplacement de la perturbation vers l'est. Donc on va avoir pratiquement toutes les régions sauf la Méditerranée qui seront arrosées. Les températures vont être à peu près similaires puisqu'on aura de 16 degrés à Brest à 27 degrés à Avignon. Une nuit très nuageuse et pluvieuse sur le Massif Central et le Beaujolais. Ça va être une journée où on va un peu oublier le jardinage. En revanche, à partir de mardi, eh bien, ça devrait être bien, sauf sur la Méditerranée, qui aura peut-être enfin de la pluie, parce qu'il y a belle lurette qu'ils sont dans le sec et ça va leur faire du bien. On aura mercredi une journée nuageuse dans la moitié nord, plein soleil au sud, toujours température agréable, 18-23 degrés. On est à peu près pareil jeudi, avec toutefois des pluies au petit matin, Bretagne, Pas-de-Calais, mais ça restera localisé. Et on aura vendredi une petite extension de la zone pluvieuse jusqu'au bassin parisien et des températures largement en hausse, 25-26 degrés du côté de Lyon ou d'Agen. Donc au niveau du jardin, ben, en ce moment, on va commencer à bêcher les parcelles qui n'ont pas été travaillées dans le potager. C'est aussi le moment de tailler les haies de conifères, les régulières et d'arbustes à feuillage persistant. On va aussi éliminer une partie des plantes aquatiques qui a commencé à envahir le bassin. Parce que ça, c'est vrai que la végétation des plantes aquatiques, elle est absolument énorme. Et puis, on va commencer à planter les bulbes à fleurs de printemps. Alors, on peut commencer plutôt par les précoces, c'est-à-dire donc les crocus, les personnages, les aconites d'hiver, les petites anémones du blanda, pas du Japon, mais blanda. Mmh. Voilà. Et puis, en ce moment, on sème aussi les pois de senteur, les clapucines, les soucis, les pavots de Californie, etc.
Parfait. Bon, ben voilà, c'est une semaine plutôt sympathique, tout ça.
Ça devrait aller à peu près. Oui, il y aura un petit peu d'eau, mais bon, c'est bien. C'est bien pour le jardin.
Voilà. Parfait. Ben, c'est ça l'essentiel.
Exactement.
Et profitez bien de ce week-end, hein, qui s'annonce très agréable. Ça, c'est super. 6h52 sur RMC. Je vous rappelle que dans quelques instants, on retrouvera la météo des infos. Après, on enchaînera avec Christian Pessé qui me rejoindra parce que ce sera votre heure dédiée à la maison avec vos questions bricolage maison déco au 32-16. Mais auparavant, le coup de cœur de Patrick pour cette semaine.
Alors, mon coup de cœur, c'est un logiciel qui vient de sortir qui s'appelle Flornum. C'est un professeur de biologie qui s'appelle Jean-Claude Mellet qui a accompli un travail absolument titanesque pour la botanique française puisque après 12 années d'expédition à toute la France, il a parcouru 350 000 kilomètres. Il faut savoir qu'en plus, il est handicapé, malheureusement, de la mer à la montagne à différentes saisons. Il a photographié 6000 plantes à tous les stades de végétation, donc 350 000 clichés avec 8 appareils photo, 5 ordinateurs, donc il a fait un travail de titan. Donc il a réussi donc quasiment à répertorier photographiquement l'ensemble de la flore sauvage. Alors continentale, parce que la flore de la Corse qui vous est très chère, mon cher François, est tellement riche et tellement particulière que ça mériterait pratiquement un logiciel spécial.
C'est dingue, ça.
Oui, ça c'est extraordinaire. Alors, ce Flornum, qui est donc à la fois un logiciel d'identification, mais aussi de présentation des plantes, c'est très interactif, il y a des belles images et surtout des descriptions très complètes. Alors c'est diffusé par Biotope Édition, ça coûte quand même un petit peu de sous, c'est normal, ça coûte 149 € pour le PC et 179 pour le Mac. Je sais pas pourquoi le Mac c'est plus cher, mais c'est comme ça. Donc rappelez-vous, le nom c'est Flornum, F-L-O-R-N-U-M, et vous pouvez déjà avoir des démonstrations sur l'internet. C'est très 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 bien.
Parfait. L'actu peut-être dans le jardin.
En actu, j'avais un petit jeu vraiment sympa qui vient de sortir, qui est à base de questions. C'est 600 questions sur le jardin, et c'est notre ami Stéphane Marie, aidé de Dany Soto, qui l'a réalisé aux éditions du Chêne Off. C'est un truc vraiment marrant. Il y a 6 catégories de questions, et en fonction de ce que vous sortez avec votre dé, vous tombez sur une catégorie, on vous pose la question et vous marquez des points. Soit vous faites un peu comme à la télévision en demandant carré, c'est-à-dire les 4 réponses et vous en choisissez une. Soit vous connaissez la réponse directement. Bon, je trouve ça pas mal. C'est pas si facile. Il y a des questions assez pointues. Et puis de la façon dont c'est posé. Donc c'est aux éditions du Chêne. Ça s'appelle 600 questions sur le jardin. Et puis je rappelle, donc c'est la fête des plantes à Saint-Jean de Beauregard. Il y a énormément de choses à voir là-bas, parce que maintenant, comme il n'y a plus Courson, c'est vraiment la grosse fête des plantes du sud de Paris. Et Paris est aussi en fête des jardins, puisque c'est la fête des jardins et de l'agriculture urbaine à Paris, où vous aurez l'occasion de rencontrer et de discuter avec les professionnels jardiniers de la ville, qui sont quand même des gens tout à fait extra et qui vous raconteront des tas de choses sur la production de légumes dans les zones urbaines. Donc voilà, il y a des choses à faire en ce moment. Le jardin bat son plein.
Parfait. Patrick, c'était un plaisir de passer cette heure en votre compagnie. Et on se retrouve bien sûr samedi prochain, on sera là.
Voilà, j'embrasse toutes les jardinières, ma petite jardinière, de façon très spéciale parce que c'est notre anniversaire de mariage aujourd'hui.
Et je vous dis gros bisous
à la semaine prochaine.
C'est le centième anniversaire, c'est
ça? Non, 28e, c'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal, 28.
C'est nickel, on va dire, parce que c'est les noces de nickel.